Bonsoir. Merci, Monsieur Trudel, pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous et de partager avec vous ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est un sujet qui n'échappe personne. Le Moyen-Orient, pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, c'est un énigme. On essaie de le comprendre. C'est bien difficile. J'essaie à l'université, que ce soit ici à Ottawa ou à Concordia à Montréal, de donner un cours sur le Moyen-Orient en 13 semaines. Monsieur Trudel vient de vous dire qu'on va parler pour 45 minutes, essayer de détroquiter ce problème qui envahit tout le monde. Nous sommes sur le point de prendre une décision ici au Canada si on va participer à l'attaque sur le groupe islamique. Le Parlement du Canada doit décider cela cette semaine, probablement. Alors, est-ce qu'on va être en état de guerre? Alors, vous voyez, ça touche tout le monde et la question du Moyen-Orient est très importante. C'est presque un effort herculien que je vais faire, d'essayer de vous donner en trois étapes tout ce qui se passe dans cette partie du monde. Premièrement, je vais faire comme une feuille de route. La première feuille, je vais vous dire pourquoi le Moyen-Orient est si important. Pourquoi tout ce temps, comme vous voyez la carte ici, ça va nous aider à démêler cette chose. Ça, c'est la première partie de ma conférence. La deuxième partie de la conférence, je vais vous donner la dynamique qui trace ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a une dynamique qu'il faudrait comprendre pour pouvoir essayer de comprendre toute la situation du Moyen-Orient. Et la troisième tranche, je vais parler des pays qui dirigent le Moyen-Orient, les pays de la région, les pays qui ont le plus grand influence. Et de cette dynamique que je vous mettrai pour que vous allez pouvoir suivre ça une fois que je mets ça sur le tableau ici. Vous allez comprendre cette dynamique. Il y a trois dynamiques qui dirigent et qui mènent la politique du Moyen-Orient. Tout ça, on va le faire en 45 minutes. On va essayer de clarifier toutes ces choses. Alors, c'est trois tranches, trois parties, trois routes. Ça fait faire partie de cette feuille de route que je voudrais analyser avec vous. La première, c'est la plus simple. La première, pourquoi le Moyen-Orient est si important? Ce n'est pas seulement aujourd'hui que le Moyen-Orient était important. Le Moyen-Orient a été toujours important, surtout depuis la venue de Napoléon en 798, quand il a envahi l'Égypte. C'était le premier occidental qui a réalisé la géopolitique de la région, la géostratégie de la région. Napoléon était parti là pour vaincre l'Empire britannique. Et l'Empire britannique, pour l'Empire britannique, les Indes, c'était le joyau de l'Empire. Alors Napoléon s'était mis, en 1798, imaginez-vous, que s'il contrôlait l'Égypte, que vous voyez, il va contrôler probablement la route vers l'Est, vers les Indes. Et comme ça, il pourrait se battre contre la Grande-Bretagne. Il a réalisé que la Grande-Bretagne était une île. C'était difficile de conquérir la Grande-Bretagne. Alors, il a dit qu'il faudrait essayer de conquérir la Grande-Bretagne en attaquant les Indes. Alors, le point principal que j'essaye de faire ici, c'est que Napoléon a réalisé que c'est une région géostratégique. C'est une région qui est très important du point de vue géopolitique. Ça a continué après Napoléon, surtout après l'ouverture du canal de Suez en 1869. Quand le canal de Suez a été ouvert, ça a réduit le temps de le parcours d'Europe aux Indes. C'était toujours les Indes, parce que la Grande-Bretagne avait l'œil sur les Indes. Alors, la Grande-Bretagne contrôlait la Méditerranée, contrôler l'entrée de la Méditerranée, Gibraltar, contrôler Malta, contrôler Chypre, Et maintenant, c'était l'Égypte. En 1882, ils ont pris l'Égypte. Alors, ils contrôlaient l'Égypte et ils contrôlaient la petite colonie au sud de l'Arabie, ce qu'on appelle Aden. Et l'Empire britannique était comme ça garanti. Et la Grande-Bretagne était devenue la puissance la plus importante au 19e et au début du 20e siècle. Mais les Britanniques avaient réalisé l'importance géostratégique. La prochaine personne qui a réalisé ça, c'était Adolf Hitler. Quand Adolf Hitler a vu qu'il ne pouvait pas vaincre la Grande-Bretagne parce que c'était une île, il s'est mis à attaquer l'Égypte de la Libye. Et c'est dans une bataille, la bataille de Al Alamein, en 1942, que l'armée allemande a été battue. Et après ça, c'était le reste de la conquête d'Europe. Mais c'était au Moyen-Orient parce que Hitler avait réalisé que ça, c'était important, géopolitique. La guerre froide, la même chose. Les Américains et les Soviétiques avaient visé que le Moyen-Orient était le point stratégique. Pourquoi? Parce que le Moyen-Orient est un pont entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Si vous regardez, c'est là que les vieux continents se joignent. Et du point de vue stratégique, si vous contrôlez cette partie du monde, vous contrôlez les trois continents, si vous voulez, parce que c'est de ces trois continents. Ça, c'est la première raison pour l'importance du Moyen-Orient qu'on a toujours voulu avoir. La deuxième raison était simplement l'économie, mais surtout le pétrole. 70% du pétrole du monde vient de cette partie du monde. Depuis 1908, nous avons réalisé, et c'est là qu'on avait découvert les premiers puits de pétrole en 1908. On les avait découverts en Iran, et puis en Irak, et puis en Arabie. Alors, le pétrole, c'est la façon par laquelle le transport du monde, la civilisation moderne, en dépend de nos voitures, en dépend du pétrole. Et vous allez dire que peut-être un jour, on aura des voitures électriques, mais ça, c'est assez loin de nos jours. Mais le pétrole reste un élément très important et le pétrole vient de cette partie du monde. Alors, ajouter le point géostratégique et le point du pétrole, ça vous donne une dynamique assez forte, ces deux choses, l'importance de la région. La troisième raison, c'est plutôt une raison culturelle, disons. Au Canada, aux États-Unis, en Europe, on trace l'héritage judéo-chrétien, l'héritage judéo-chrétien qui vient de cette partie du monde. Les trois religions monothéistes, le judaïsme, la chrétienté et l'islam, viennent de cette partie du monde. Alors, peut-être c'est une bénédiction, peut-être ce n'est pas une bénédiction, mais nous avons des villes saintes dans cette partie du monde. Et les villes saintes comme Jérusalem, par exemple, est un obstacle pour une paix qu'on voudrait discuter dans cette partie du monde, parce que tout le monde la veut. Ils veulent Jérusalem. Après, il y a, c'est sûr, Bethléem et Nazareth aussi. C'est dans notre héritage, l'héritage occidental. Ce qui se passe au Vietnam, c'est important. Ce qui se passe en Afrique, c'est important. Mais il n'y a pas ce lien qu'au Canada, par exemple, ou aux États-Unis, ou en Europe, le lien qu'il y a avec la religion, quelle qu'elle soit, même si vous ne la pratiquez pas, la religion, c'est l'héritage de ce peuple. Alors, c'est du point de vue culturel. Vous allez dire, eh bien, la culture n'est pas très importante. Je peux vous dire, non, la culture, surtout dans ces pays-là, est très importante, surtout dans l'islam, ainsi que dans le judaïsme. Peut-être nous, les chrétiens, nous négligeons un peu cet héritage, mais du point de vue judaïque et du point de vue islamiste, la religion est très importante. Et maintenant, peut-être, c'est ça ce qui mène les conflits dans cette partie du monde. Alors, regardez la géopolitique, la stratégie, le pétrole, la religion, la culture, tout ça ensemble, c'est une dynamique assez forte. C'est pour ça que nous sommes intéressés au Moyen-Orient. C'est pour ça ces pays qui envoient maintenant pour bombarder, faire ce qu'ils font en Irak, on va discuter de tout ça. C'est tout ça et qui fait de cette partie du monde une des plus importantes parties du monde. Écoutez, vous avez dit, vous allez me dire, ah, on a bien fait de faire sauter le président Saddam Hussein, c'était un dictateur. On a bien fait de faire sauter le colonel Gaddafi en Libye, c'était un autre dictateur. Mais il y a beaucoup d'autres dictateurs qu'on ne touche pas. Par exemple, il y a le dictateur africain Mugabe, qui est un très grand dictateur et personne ne le touche. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas la chose géostratégique, il n'y a pas tout ça. Alors, c'est pour cela qu'on a fait sauter Saddam Hussein, c'est pour cela qu'on a fait sauter le colonel Gaddafi, pour les raisons que je viens de dire. Alors, vous voyez, il y a tout ce qui se mêle ici. Maintenant, je voudrais vous donner une idée de la deuxième tranche de la conférence, vous donner une idée de la dynamique qui agite le Moyen-Orient. Je vais faire trois cercles ici. Je vais considérer que c'est ces cercles qui mènent cette politique du Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Je vais l'accrocher. Vous voyez? Alors, le premier, c'est le conflit Israël. Palestine. Ça, c'est un conflit de 6 décennies. Depuis 1948, nous avons ce conflit que nous n'avons pas trouvé une solution pour ce conflit. Et ce conflit définit beaucoup d'autres considérations au Moyen-Orient. Il y a toujours ce conflit qui arrête la normalisation des relations avec d'autres pays. Et ça, c'est un conflit que vous ne pouvez pas ignorer. Cet été, vous avez vu une partie de ce conflit dans la zone de Gaza, dans la région. Il y a eu 2000 morts. Ben, je ne voudrais pas à ce moment-là dire qui avait raison, qui n'avait pas raison dans ça, mais on a tué 2000 personnes. Parmi eux, 70% de la population étaient des civils. Et il y avait plus que 650 enfants qui ont été tués. On ne peut vraiment pas être indifférent à une situation pareille. Ça, c'est un conflit qui est là et qui déchire le Moyen-Orient depuis 6 décennies. Et les pays occidentaux ne font rien à essayer de solutionner ce problème. Les pays occidentaux, surtout les États-Unis, pourraient faire quelque chose pour améliorer la situation dans cette partie du monde. Ça, c'est la première dynamique. Et nous allons parler de cette dynamique à fur et à mesure. La deuxième dynamique, et ça commence en 2003. En 2003, c'était l'invasion américaine de l'Irak. L'invasion américaine de l'Irak a provoqué une lutte entre deux communautés islamiques. La communauté sunnite et la communauté chiite. La communauté sunnite, Saddam Hussein appartenait à cette communauté. Il y a des différences entre les sunnites et les chiites. C'est les deux grandes branches de l'islam. Au 7e siècle, ces différences ont eu lieu. Et depuis, ils étaient dormantes. Le conflit était dans les années 680, quand un des chiites a été tué. On parlera de ça durant les questions. Mais jusqu'à 2003, il n'y a pas eu de conflit entre les sunnites et les chiites. C'est-à-dire, il y avait ignorer complètement l'autre communauté, mais ils ne se battaient pas. Ils se mariaient entre eux. Et j'ai connu beaucoup de sunnites et beaucoup de chiites, et que la moitié de leur famille est sunnite, l'autre moitié est chiite. Et parfois, surtout parmi les jeunes, oh, je ne sais pas, je suis sunnite, je suis chiite, ça n'a pas d'importance. Parce que la différence n'est pas théologique, la différence est plutôt politique. Et je parlerai de cette différence plus tard. Depuis 2003, ça a été une nouvelle dynamique qui est rentrée au Moyen-Orient. Parce qu'il y a deux pays qui représentent ces deux communautés. Et ces deux très importants pays, c'est la troisième tranche de laquelle je vais parler. Les sunnites sont représentés par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est la custode des lieux saints de l'islam. La Mecque et Médina sont les deux villes saintes de l'islam. Aussi, Jérusalem est une ville sainte de l'islam. Mais la première et la deuxième ville, c'est les villes saintes. C'est là que l'islam orthodoxe, parce que les sunnites sont les orthodoxes, c'est ces gens-là sont représentés par l'Arabie saoudite. Et il y a une rivalité avec un autre pays, une rivalité politique. La rivalité est avec l'Iran. Et 90% des Iraniens sont chiites. Alors, ce qui est arrivé est que le conflit sunnite-chiite en Irak s'est transformé en conflit régional. Le conflit régional devient l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Arabie saoudite et l'Iran sont les deux grandes puissances. Il y en a quatre, je vais parler des quatre puissances. Mais l'Arabie saoudite et l'Iran sont les grandes puissances de la région. Et la coïncidence est qu'une est chiite et l'autre est sunnite. C'est comme si on faisait les guerres de 30 ans entre catholiques et protestants, si vous voulez aller plus loin dans l'histoire européenne. Alors, les Iraniens et les Saoudiens représentent ces deux communautés, et ce n'est pas seulement que l'Irak est en jeu. L'Irak, c'est un pays qui est majoritaire chiite, mais a été gouverné pour 400 ans par les sunnites. Les sunnites gouvernaient, que ce soit les Arabes, que ce soit les Turcs, c'était les Arabes et les qui étaient sunnites qui gouvernaient l'Irak. Et souvent, l'Irak était un pays qui changeait de bord. Une fois les Iraniens, les Perses, on les appelait. En 1935, on a changé le nom de l'Iran à Perse. Alors, ça, c'est un conflit entre ces deux pays, l'Iran et là, transformé en conflit sectarien. Parce que les Iraniens ont toute une façon de voir. Je vais revenir au troisième, mais les Iraniens, si vous voyez l'Iran, ils sont en train d'établir ce qu'on appelle un croissant chiite. Un croissant chiite, ça c'est l'Iran, ça c'est l'Irak, ça c'est la Syrie, et ça c'est le Liban. Vous les voyez sur la carte ici. Maintenant, l'Iran est 90% chiite. L'Irak est 60% chiite. La Syrie est sunnite. La Syrie est 70% sunnite. Mais elle est gouvernée par une secte qui s'est divisée des chiites, mais qui est près des chiites. On les appelle les Alaouites. Le président Assad appartient à cette communauté. Et la Syrie a signé un accord avec l'Iran en 1979, un accord d'amitié entre les deux, parce que c'est un régime minoritaire qui gouverne la Syrie. Et le président Assad représente cette minorité, et pour conserver sa minorité, il s'était allié depuis 1979 avec l'Iran. Alors, depuis 2003, l'Irak, qui a été conquis par les Américains, les Américains sont tournés vers l'Irak et ils ont dit, écoutez, on veut la démocratie en Irak, vous allez avoir une élection libre. Et le résultat des élections était bien clair, parce que le clergé chiite en Irak avait dit à tout le monde, aux chiites, à leurs concitoyens, c'est la première opportunité pour nous de nous gouverner nous-mêmes. Alors, votez chiites, votez pour des partis chiites. Et les chiites ont pris le pouvoir en Irak. Et qui les a aidés? Les Iraniens. Le président Bush a fait un cadeau à l'Iran en renversant Saddam Hussein. Quand il a renversé Saddam Hussein, il a renversé l'homme qui s'était battu contre l'Iran pour 8 ans. Depuis 1980 à 1988, Saddam Hussein avait fait la guerre à l'Iran. Les Américains étaient heureux, lui ont donné des armes. Ils ont tout fait pour aider Saddam Hussein. Mais en 2003, le président Bush décide que on va attaquer l'Irak, on va conquérir l'Irak. En faisant ça, ils ont fait un cadeau à l'Iran. Parce que l'Iran, qui a donné le refuge à beaucoup de chiites durant la guerre Irak-Iran, beaucoup, le monsieur Maliki, qui était premier ministre jusqu'à le mois passé, était à Téhéran durant tous les 8 ans. Alors, beaucoup de leaders chiites étaient à Téhéran. Alors, on a renforcé l'Iran en attaquant l'Irak en 2003. Les Américains maintenant disent, nous avons fait une erreur, mais c'était une très grande erreur. Notre premier ministre au Canada, monsieur Chrétien, avait complètement refusé de se joindre à cette coalition. Et il avait clairement dit que si les Nations Unies décident qu'il faut attaquer l'Irak, nous allons nous joindre. Mais les Nations Unies ont dit non. Surtout la France. Dominique de Villepin avait fait un discours extraordinaire pour ne pas attaquer. Parce qu'ils ont réveillé ce genre de sectarien. Les chiites, les sunnites, on les a mis maintenant un contre l'autre. Ils n'étaient jamais un contre l'autre depuis le 7e siècle. Alors, la Syrie s'allie avec l'Iran. L'Irak, dans ce croissant, c'est un satellite de l'Iran maintenant. Le premier ministre qui est au pouvoir, Abadi maintenant, celui qui a pris la place de Maliki, vient de la même formation politique, de même groupe chiite. C'est les chiites qui gouvernent l'Irak maintenant et ils sont alliés avec l'Iran. La Syrie a été alliée pas du point de vue idéologique, mais du point de vue stratégique. Parce que le président de Syrie, le président Assad, c'est un laïc. Il croit que l'État et la religion doivent être séparés. Et le président Assad a toujours défendu les minorités. 30% de la population syrienne appartient à des minorités. Il y a 10% des Syriens sont chrétiens et 14% sont des Alaouites. Il y a des Druzes et il y a des Kurdes. Alors, c'est une minorité. La minorité l'appuie. Et une grande partie des sunnites aussi l'appuient. Alors, cette alliance se tourne comme ça. Et finalement, le Liban. Le Liban a, depuis les dernières 10 années, le Liban a maintenant une pluralité chiite. 40% de la population au Liban sont chiites. Et les chiites, surtout, il y a un parti politique au Liban qui s'appelle le parti Hezbollah, le parti de Dieu. C'est un parti chiite. Il est fourni par les Iraniens, il est formé par les Iraniens, et 40% du Liban est maintenant chiite. En 1945, 55% de la population libanaise était chrétienne. Les chrétiens maintenant sont réduits à 30% de la population au Liban. Alors, le visage chrétien de Liban a changé. Et c'est les chiites maintenant. Et ils sont alliés. Maintenant, qui existe au sud du Liban? C'est Israël. Alors, les Américains sont très inquiets de ce croissant qui a été bâti par l'Iran. Et ça, c'est un problème assez important. Alors, la dynamique sunnite-chiite, ce n'est pas seulement le fait qu'il y a ce croissant, c'est que c'est la région la plus stratégique du Moyen-Orient. Il y a le pétrole en Irak, en Iran, c'est surtout ces deux pays, ainsi que l'Arabie Saoudite. 15% de la population d'Arabie Saoudite au nord-est de l'Arabie Saoudite est chiite, 15%. L'île de Bahreïn, 70% de l'île est chiite, mais le roi de Bahreïn est sunnite, 30% est sunnite. Alors, vous voyez, un peu partout, on a mis maintenant les sunnites contre les chiites. On les a mis au Liban. En Syrie, c'est un marécage en Syrie maintenant. C'est une anarchie complète en Syrie. On ne sait pas qui est qui. Les rebelles sont contrôlés par les groupes islamistes. Un de ces groupes les plus importants, c'est ceux qui ont pris la ville de Mossoul le 10 juin dernier. Et hier, ils étaient à 10 kilomètres de Bagdad. Hier. Alors, si Bagdad tente au groupe islamiste, l'État islamique, ils ont enlevé la frontière entre la Syrie et le Liban. Ils ont dit, nous allons finalement établir un État islamique, un califat islamique. C'est très important, la notion du califat. On ne la connaît pas en Occident. On va parler de ça. Le califat a existé jusqu'à 1924. C'est le président de Turquie qui a aboli le califat. Et depuis 1924, il n'y a pas eu de califat. Qui est le calife? Le calife, on a anglicisé, on a francisé le mot de l'arabe qui est khalifa. Khalifa veut dire le successeur du prophète. Alors, quand le prophète est décédé en 632, les musulmans de ce jour se sont mis ensemble et ils ont dit, écoutez, on doit choisir un successeur, un calife. C'est ça ce que ça veut dire, un successeur du prophète. Le successeur du prophète est le chef spirituel et le chef temporel. Il y a complète fusion entre religion et État. On ne peut pas séparer les deux. Dans l'islam classique, vous ne pouvez pas. Le calife et pape et empereur en même temps. Il n'y a que les catholiques qui ont séparé vraiment l'État de la religion. Parce que nous avons un pape et nous avons des chefs d'État. Nous n'avons jamais fusionné les deux dans la religion catholique. Pas les protestants. Je ne veux pas parler des protestants maintenant, mais les protestants, le chef de l'église anglicane, c'est la reine. Alors, on parle de séparation d'État et d'église. Ben, il n'y a pas de séparation quand le chef d'État... Les protestants de la Suède, la Norvège, Danemark, le chef d'État doit être luthérien. Mais dans les pays catholiques, il n'y a pas ça. Les pays catholiques séparent l'Église de l'État. Ils suivent ce que le Christ a prêché. Le Christ a prêché très clairement. Quand on lui a demandé à qui on doit obéir, ils ont dit, ce qui appartient à Dieu, faites ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à l'empereur. Il a dû payer les taxes, faire ces choses. Alors, il a séparé l'Église de l'État. Alors, ça, c'est très important que dans la religion chrétienne, catholique surtout, maintient cette séparation entre les deux. Mais en tout cas, c'est cette dynamique qui mène cette politique. Maintenant, la Syrie, on va voir dans ma troisième tranche comment on va analyser ce point-là. Maintenant, si on revient à ces dynamiques de 48, alors il faut vraiment connaître l'année 48, parce que c'est l'année où l'État d'Israël a été créé, où la Palestine et Israël, c'est le conflit qui continue et qui doit se solutionner. 2003, c'est l'invasion d'Irak, et cette dynamique sunnite-chiite qui divise ces gens-là. La troisième dynamique n'est pas encore aussi claire. Elle vient en 2009. En 2009, le président Obama déclare que le Moyen-Orient n'est pas simplement les pays qu'on considère Moyen-Orient. Il déclare que nous avons le grand Moyen-Orient, le Great Middle East, il l'a appelé, Greater Middle East. Alors, le grand Moyen-Orient. Du Maroc au Pakistan. Alors c'est un nouveau croissant que nous avons établi, un croissant d'instabilité, parce que maintenant, avec les drones, on attaque le Pakistan, en Afghanistan, ça ne va pas si bien, mais on a assez de problèmes au Moyen-Orient pour ajouter le Pakistan et l'Afghanistan. Vous voyez, l'Afghanistan n'apparaît sur cette carte. Le Pakistan, c'est un peu plus à l'est et au sud de l'Afghanistan. Mais ça, c'est le Greater Middle East, comme les Américains l'appellent maintenant. Alors, ces trois dynamiques, maintenant, 2009, c'est pas loin, c'est hier. Et on voit continuellement des attaques qui ont lieu au Pakistan, etc. Maintenant, je vais venir à la troisième tranche de la conférence ici. Si on va analyser, et après ça on va voir chacune de ces cercles, je les appelle les cercles israélo-palestiniens, sunnites, chiites, et le croissant d'instabilité, le troisième croissant, c'est le croissant d'instabilité. Maintenant, quelles sont les puissances régionales de la région? Quelles sont les puissances qui comptent? On a déjà parlé de deux. L'Iran. L'Iran, c'est un pays de à peu près 85 millions d'habitants. C'est un grand pays. C'est un pays immense, comme vous voyez. L'Irak est rien à comparer avec l'Iran. L'Irak n'a que 25 millions d'habitants. Alors, ce n'est pas un pays majeur, c'est l'Iran qui est un pays majeur. C'est l'ancien empire perse. L'empire perse a fait la guerre à Alexandre le Grand. Il existe depuis des milliers d'années, l'empire. En 1971, le Shah d'Iran avait proclamé 2500 années de royauté en 1971. Alors, l'Iran, c'est un pays de grande civilisation. C'est un pays à quel on peut voir tout ce que vous voulez voir de l'ancienne histoire, c'est dans l'Iran. L'Iran, c'était la Perse, on l'appelait. En 1935, ils ont décidé de changer le nom et de l'appeler Iran à la place de la Perse. Ça, c'est à l'est. Au sud, vous avez l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est importante principalement à cause de son pétrole. C'est un pays qui a 25-30 millions d'habitants. Ce n'est pas un pays militaire. Ils ont toute la technique que vous voulez avoir. Ils l'ont. Ils ont l'argent. Ils pensent qu'ils peuvent mener une diplomatie avec l'argent qu'ils ont à cause du pétrole. C'est un pays très riche en pétrole. C'est un pays qui a la Mecque et Médina, les deux villes saintes de l'islam. Alors, c'est les custodes de l'islam. C'est un pays très important du point de vue diplomatique, du point de vue stratégique, du point de vue pétrolier. On le met comme pays important parce que c'est eux que vous allez voir qui envoient de l'argent pour les rebelles en Syrie, un peu partout. C'est l'Arabie saoudite. Eux ne se battent pas, mais ils ont leurs agents, ils ont des gens par lesquels ils utilisent ces gens-là pour avancer leur... C'est un pays qui a beaucoup fait pour son peuple. Ils ont un système social extraordinaire, vous devez voir ça. Moi, je vois les étudiants qui viennent d'Arabie saoudite, leur gouvernement leur paye toutes leurs études, leur donne de l'argent cash et ils sont bien choyés. Mais souvent, ils retournent dans leur pays, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire parce que c'est un problème social. Mais ils traitent leur population d'une façon assez juste du point de vue social. L'autre pays qui est assez important du point de vue militaire, c'est Israël. Alors, Israël, c'est une des puissances militaires les plus importantes, je dirais. Depuis la création de l'État d'Israël, ils se sont battus en 48-49, en 56, en 67, en 73, et chaque fois ils sont sortis vainqueurs. c'est une puissance militaire très forte. Et ils ont la fine technologie militaire que les Américains leur provient. Ils reçoivent des trillions d'argent des États-Unis. Et Israël est vraiment coté comme un des pays les plus forts dans la région. Alors ça, c'est dans l'ouest du Moyen-Orient. Au nord, vous avez la Turquie. La Turquie, c'est un pays de l'OTAN. C'est un pays islamique, 85 millions d'habitants, principalement sunnites. C'est un pays sunnite. Les Turcs ont dominé le Moyen-Orient pour plus que 400 ans. De 1517 à 1918, ils gouvernaient le Moyen-Orient. Alors, il y a un héritage ottoman. C'est les Ottomans, les Turcs ottomans. Maintenant, comment cette dynamique se joue? Nous avons des conflits. Un des grands conflits est entre l'Iran et Israël. Monsieur Netanyahu, Premier ministre d'Israël, hier aux Nations Unies, l'année passée aux Nations Unies, a déclaré que l'Iran est un pays dangereux, que l'Iran est un pays qui veut bâtir une bombe nucléaire et que Israël serait anéanti si l'Iran a la permission de bâtir un programme nucléaire. Alors, Israël et l'Iran sont à deux points opposés. Alors, si vous appuyez Israël, les Iraniens ne vont pas être très heureux de ça, parce qu'il y a cette possibilité. Un autre conflit, c'est l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Arabie saoudite et l'Iran, du point de vue sunnite-chiite, il y a ce point-là qui les divise et qui, alors, agite les éléments dans d'autres pays, dans ce croissant que nous avons discuté. Nous avons parlé du croissant chiite. Parce que si vous regardez ici, l'Arabie saoudite va faire tout pour faire sauter le président Assad de Syrie. Parce que le président Assad de Syrie est allié avec l'Iran. Alors, ils vont tout faire pour le faire sauter. C'est le conflit sunnite-chiite qui rentre en jeu. La Turquie, c'est sûr, est pays sunnite. Et la Turquie et l'Arabie saoudite sont d'accord. Mais chacun a une vision différente. Les Turcs espèrent peut-être reprendre la domination du Moyen-Orient, surtout avec leur nouveau président Erdogan. Erdogan parle on l'a décrit dans le journal Economist, non, est décrit comme le nouveau sultan, qu'il veut recréer l'Empire ottoman. Alors ça le mettrait en conflit avec l'Arabie saoudite. Mais l'Arabie saoudite et la Turquie maintenant sont sur la même base. Maintenant, il y a beaucoup qui nous disent que l'Arabie saoudite pourrait faire une paix avec Israël. Ça, c'est ce qui est impensable avant. Mais que les Arabiens saoudites et Israël se mettent du même côté contre l'Iran. Mais il y a un problème qui les sépare. C'est le problème de Palestine. Parce que les Arabiens saoudites, quand même, disent qu'il faut avoir un État palestinien. Et c'est là que Israël et l'Arabie saoudite ne voient pas la chose de la même façon. Alors, mais c'est une possibilité. En anglais, on dit « politics makes strange bedfellows ». Alors, c'est « politics makes strange bedfellows », que l'Arabie saoudite et Israël se mettent ensemble. Mais il faut solutionner le problème de Palestine qui nous remène à la première dynamique. C'est pour ça, si on peut solutionner le problème palestinien, l'Arabie saoudite et Israël se mettraient contre l'Iran. Et ils pourront ainsi essayer de remettre une paix entre les Arabes et les Israéliens. Alors, ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est un une question de principe, de nœud, c'est cette question israélo-palestinienne. Alors, ça, c'est les quatre puissances qui déterminent. Maintenant, on me demande souvent, est-ce que c'est l'Arabie saoudite ou l'Iran qui vont gagner en Syrie? Parce que la bataille, maintenant, est en Syrie. Et la question est que tout se joue en Syrie, entre ces deux puissances. Israël est silencieuse parce que, il faut dire, pour 40 ans, il n'y a pas eu de problème sur la frontière syro-israélienne. Ça, c'est un point. Et que beaucoup d'Israéliens se disent, si on renverse le président Assad et on établit un État islamique sur la frontière israélienne, Israël aura deux frontières avec le Liban, les chiites du Liban, et s'il y a un État islamique sur la frontière de Syrie, ça serait un désastre pour Israël. Et parce qu'Israël continuellement considère que l'Iran, c'est l'ennemi. Et alors, ces groupes islamistes qui jouent maintenant en Syrie, même le groupe que tout le monde est effrayé de ce groupe maintenant, le groupe l'État islamique, c'est les pays du Golfe ainsi que l'Arabie saoudite et le Qatar qui ont fourni l'argent et les armes à ce groupe-là. Maintenant, ils les bombardent parce qu'ils réalisent que ce groupe, s'il prend Bagdad, si Bagdad tombe dans leurs mains, et ils sont à quelques kilomètres de Bagdad maintenant, quand ils sont descendus de Mossoul, vous voyez Mossoul dans le nord de l'Irak, l'Arabie saoudite a mis 30 000 hommes sur la frontière Arabie saoudite-Irak parce qu'ils ont cru que ces gens-là continueraient vers la Mecque, vers Médina, parce que pour eux, s'ils peuvent prendre la Mecque ou Médina, c'est fini. Ils diront, nous sommes le représentant de l'islam, nous sommes le calife, nous sommes les successeurs du prophète. On va revenir à ça. Maintenant, pour voir, le temps, ça va assez vite, mais je vais revenir aux trois dynamiques que nous avons mis ici. Parce que si vous regardez ces trois dynamiques, ils sont représentés dans les deux autres feuilles que nous avons. Parce que nous avons ici la feuille du croissant chiite et la dynamique Iran du Golfe Persique à la Méditerranée, où est le Liban. Ça serait un croissant extraordinaire. S'il se consolide. Il est maintenant là. Et les Américains et les autres qui veulent la chute de l'Iran s'attaquent à l'Iran en Syrie. La bataille est en Syrie. Ils n'osent pas attaquer l'Iran parce que l'Iran, c'est trop gros. La Syrie, c'est un petit pays, 25 millions d'habitants. Alors, si vous voulez vraiment faire la guerre à l'Iran, c'est amener la chute du régime Assad. Parce que si vous amenez la chute du régime Assad, vous allez couper. Si vous faites ça, le croissant est coupé. Et ça serait une défaite à l'Iran. Si la Syrie tombe. Alors, ce n'est vraiment pas, je dirais, que les Syriens... Les pauvres Syriens, je dirais, parce que les Syriens sont les victimes de tout ça maintenant. Le peuple syrien. Le peuple syrien, ça les ennuie, toutes ces guerres. Parce qu'on se bat avec deux idéologies contraires. Mais en vérité, à la fin du jour, qui va tout décider? C'est les États-Unis et la Russie. Alors vous voyez, c'est un problème régional qui devient un problème international. Alors, si vous voulez voir que le problème de la Syrie, ce n'est plus le problème syrien. Au début, ça a commencé comme un problème syrien. On voulait démocratie, etc., etc. Et immédiatement, les groupes rebelles, il y a eu des groupes islamistes qui ont pris la direction des groupes rebelles. Et après ça, l'Iran et l'Arabie saoudite se sont mêlés. Après ça, la Russie et les États-Unis se sont mêlés. Alors, ça a commencé par un problème local un problème régional qui est devenu un problème international. Et les Russes sont les défendeurs. Aux Nations Unies, c'est eux qui mettent le veto quand il y a une discussion sur la Syrie. C'est les Russes et les Chinois. Alors, maintenant, c'est un problème international. Si vous voulez battre ce croissant, il faut faire sauter le régime du président Assad en Syrie. Ça revient à ça. Assad n'est rien vraiment dans tout ça. On l'a démonisé, on dit qu'il a tué son peuple, tout ça, c'est pas ça ce qui les embête. Je suis peut-être assez cynique de dire ça n'a aucune importance. C'est sûr, c'est des êtres humains, mais c'est une politique très dure. Et le peuple syrien est en train de souffrir. Les réfugiés qui quittent leur foyer, des centaines, des milliers de réfugiés qui quittent. Et maintenant, les rebelles viennent de partout dans le monde. Ils viennent d'Europe, ils viennent de Calgary, parmi les rebelles. Il y a beaucoup d'étrangers. La majorité des rebelles en Syrie, et M. McCain, le sénateur McCain, que vous connaissez peut-être, qui dit qu'il faut armer les rebelles, il faut leur donner plus d'armes. Ils ont fait la guerre à Obama. Il voulait qu'Obama attaque la Syrie. Obama avait refusé de faire ça. Ils sont en train de pousser. C'est tous des étrangers qui viennent de Tchétchène, en Russie, de l'Afghanistan, de la Libye. Ils se battent en Syrie. C'est comme la guerre d'Espagne en 36 et 39. Parce qu'il y a eu une guerre civile en Espagne, 36-39. La Syrie, maintenant, c'est un champ de bataille. Entre plusieurs. Et c'est le peuple syrien qui souffre dans tout ça. Maintenant, on revient à nos problèmes de base. Le problème Israël-Palestine. Ça, c'est un problème qui dure depuis 6 décennies. Quand l'État d'Israël a été créé, il y a eu une guerre. Les pays arabes se sont révoltés contre la création de l'État hébreu en Palestine. C'est la Grande-Bretagne, en 1917, qui avait fait une déclaration quand la Palestine ne leur appartenait même pas en 1917. Mais avant qu'ils occupent la Palestine, la Grande-Bretagne avait fait une déclaration, la déclaration Balfour, promettant au peuple juif un foyer national en Palestine. Alors, c'est de là que ça a commencé. Et la population juive en Palestine, en 1917, était à peu près 11% de la population. Les chrétiens étaient 9% et les musulmans étaient 80% de la population en Palestine. Petit à petit, la venue de Hitler, en 1933, beaucoup de juifs se sont réfugiés en Palestine à ce moment-là. Et quand la guerre a fini en 1945, la population juive était déjà 40%. La population juive était très éduquée. Ils venaient surtout les juifs d'Allemagne. C'était les plus avancés parmi la population juive. Einstein était un de cette population. Et les Arabes étaient terrifiés à ce moment-là par cette immigration. Et éventuellement, les Nations Unies en 1947 décident de faire une partition de la Palestine. Les Palestiniens se révoltent contre ça. Une guerre a lieu en 1948. Les Palestiniens perdent une grande partie de la Palestine. Et ce qui reste de la Palestine, de la Palestine britannique, disons, n'est que 22% de ce que la Palestine était. Si je vous fais une carte de la Palestine ici, parce que tout revient à ça. Ça, c'est la Palestine sous les Britanniques. Après la guerre de 1948, ce n'est que 7 sections qu'on appelle la Cisjordanie en français, ou bien en anglais, the West Bank. La Cisjordanie, et la bande de Gaza, ici. tout le reste de la Palestine est occupé par Israël en 48-49. Les Arabes ont été battus et ils ont perdu une grande partie que les Nations Unies leur avaient donnée. Ils auraient dû accepter la partition, ils ne l'ont pas acceptée. C'était une erreur de leur part. Ils ne l'ont pas acceptée et cette partie de la Palestine était occupée par la Jordanie et cette partie de la Palestine était occupée par les Égyptiens. Le Sinaï est ici. Le Liban est là, la Syrie et la Jordanie. Alors, en 67, il y a une autre guerre et Israël a conquis cette région. Et cette région. Alors, Israël, en 67, a toute la Palestine. Il n'y a plus... Ce que les Arabes demandent aujourd'hui, c'est 22% de la Palestine. C'est ça ce qui leur reste. Ils demandent qu'on leur retourne cette partie. Ils acceptent l'État d'Israël, mais ils disent, nous devons avoir cette partie. Depuis 1993, quand le président Clinton avait réuni les Palestiniens et les Israéliens à Camp David, il les avait réunis là, et il avait essayé d'établir une paix. Il a établi les accords d'Oslo en 93. C'était un pas en avance en 93. En 95, le premier ministre d'Israël, Rabin, est assassiné par un fanatique religieux de sa communauté à lui. Il est assassiné et c'est un revers pour la paix. Et depuis, ça fait plus que 20 ans, depuis les accords d'Oslo, on essaye de trouver une solution à la Palestine. Je vais terminer avec ça. Il y a 5 obstacles à cette résolution. Et on a discuté et discuté depuis 20 ans d'essayer de remettre. Le premier obstacle, c'est Jérusalem. Jérusalem est divisée, l'Est et l'Ouest. Les Israéliens déclarent que Jérusalem ne devrait pas être divisée, elle devrait être unifiée et elle devrait être la capitale éternelle d'Israël. Les Palestiniens leur disent non, on est prêt d'avoir une unité de Jérusalem, mais la section Est est une section palestinienne et la section Ouest est une section israélienne. Alors, les Israéliens disent c'est impossible, on ne peut pas, c'est une ville sainte pour nous. Les musulmans disent « c'est une ville sainte pour nous ». Il n'y a que nous, les chrétiens, qui ne disent rien. Parce que aussi, c'est important pour nous, comme chrétiens, la ville de Jérusalem. Mais ça, c'est le premier obstacle, Jérusalem. Le deuxième obstacle est les réfugiés palestiniens. En 48 et en 67, il y a eu plus que 900 000 Palestiniens qui ont quitté leur pays. Il y a qui ont quitté parce qu'ils étaient obligés de quitter, il y avait une guerre, etc. 900 000. Il y a maintenant 4 millions de Palestiniens. Et ces Palestiniens vous disent, nous voulons retourner chez nous. Israël dit, c'est impossible, on ne peut pas avoir 4 millions de citoyens palestiniens revenir chez nous. Ça serait un déluge et une explosion démographique. Avec raison, vous pourriez dire que ça serait parce qu'il y a 6 ou 7 millions d'Israéliens, ajoutez 4 millions de Palestiniens, il y a 2 millions ici. À Gaza, il y a à peu près 1,5 million d'habitants. C'est comme d'Ottawa à Rockland, la zone de Gaza. C'est beaucoup de gens qui avaient quitté les villes de Haïfa, de Jaffa, et qui étaient venus s'établir à Gaza. Alors, le deuxième problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces réfugiés palestiniens? Où est-ce qu'on va les établir? Alors, ça, c'est une discussion qui... Troisième problème, il y a la question des colons juifs. Des colonies juives ont été établies dans la Cisjordanie. Quand Israël a conquis la Cisjordanie en 67, ils ont établi des colonies. Il y a maintenant 1,5 million de Juifs qui vivent en Cisjordanie. Et les Palestiniens disent, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ces colons? Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos choses, et il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites? Et ces colons sont très forts, ils disent, ils influencent le gouvernement de M. Netanyahu, parce que c'est la droite israélienne, qui tient à ces colonies. Ces gens-là disent, c'est la grande Israël, Greater Israel, ils l'appellent. Et ces gens-là, c'est la question des colons. Ça, c'est le troisième problème. Qu'est-ce qu'on fait avec les colons? Est-ce qu'ils restent dans la Cisjordanie si on donne l'indépendance à la Palestine et on établit un État palestinien? Ça, c'est le troisième problème. Le quatrième problème, c'est la question des frontières. Ça devrait se résoudre. On peut revenir aux frontières de 67. Ça, c'est les frontières de 67. Mais il y a des colonies israéliennes qui ont été bâties ici, par exemple. Et ils disent, écoutez, peut-être on peut faire un changement ici. On peut élargir la frontière ici et vous donner quelque chose ici ou quelque chose ici. Faire un échange. Ça se fait. C'est le quatrième problème, la question des frontières. Et finalement, la question de sécurité. Les Israéliens vous disent que nous sommes un pays qui est continuellement en garde et nous devons avoir des frontières sûres. Alors, ils disent la vallée du Jourdain ici. Peut-être on peut établir dans cette vallée du Jourdain des troupes de l'OTAN, peut-être des troupes américaines, qui sépare la Jordanie et qui donne à Israël une certaine profondeur. Il y a eu un premier ministre israélien en 2008 qui s'appelait Ehud Olmert, Monsieur Olmert. C'est celui qui est venu le plus près à faire une paix en 2008. Il a dit, nous sommes prêts à partager Jérusalem, Est-Ouest, mais unis. Ça, c'est un point. Nous ne sommes pas prêts à prendre les réfugiés palestiniens, nous pourrons prendre 30 000. Mais 4 millions ne seront pas là. Mais il faut voir du point de vue démographique, c'est une bombe pour Israël si vous allez remettre 4 millions. Alors ça peut-être, si on donne une compensation aux Palestiniens, si on leur donne un pays où ils peuvent s'établir, on pourrait solutionner ce problème. Les frontières, d'après M. Olmert, on peut faire des échanges. Il a même dit le nord de la Cisjordanie et au sud de Cisjordanie, on peut donner des territoires israéliens en échange avec des territoires que nous allons prendre. Et la question de sécurité, M. Olmert lui-même a dit, mettez un troupe des Nations Unies ou de l'OTAN ici pour nous séparer. M. Netanyahu, cette année, a mis deux nouvelles obstacles. Un de ces obstacles, il a dit, très bien, nous sommes prêts à faire la paix avec les Palestiniens à une condition qu'ils reconnaissent l'État d'Israël comme État juif. Autrement, on ne va pas faire la paix avec vous. Vous allez nous reconnaître comme État juif. Les Palestiniens vous leur disent, écoutez, on ne peut pas vous reconnaître comme État juif parce que 20% de votre population qui vit en Israël sont arabes. Et pourquoi la nommer juif? Et troisièmement, il a dit un autre obstacle qu'il a créé. Il dit, non, nous ne voulons pas ni les Américains ni l'OTAN. Nous devons occuper cette région avec des troupes israéliennes. Alors, M. Kerry, qui était secrétaire américain, pour 9 mois, du mois d'août 2013 à avril 2014, a réuni les Palestiniens et les Israéliens, les a mis ensemble, vous devez faire une paix. Le 29 avril, c'était la date limite, et ça a échoué. Alors, il n'y a pas eu de paix. Il n'y a pas eu de paix, et on attend cette paix. L'Iran est en train de négocier maintenant avec les 6 puissances. Nous sommes prêts, les Iraniens vous disent, à pratiquer pour le nucléaire, pour les régions civiles. Nous ne voulons pas faire des choses militaires. Alors, ils discutent. Ils avaient 6 mois pour le faire. On leur a donné maintenant jusqu'au mois de novembre 2014. Ils devaient avoir une entente en juillet. Il n'y a pas eu d'entente en juillet. On a remis l'affaire jusqu'à novembre. Alors, problème numéro un a été remis. On ne sait pas quand il va y avoir une discussion. Nous avons eu la débâcle à Gaza dernièrement. Et il y a maintenant une armistice qui tient à bout de ficelle. Ça pourrait éclater n'importe quand. Ce n'est pas le moment d'avoir une autre crise dans cette partie du monde. L'Iran en attend pour le mois de novembre. Mais le grand problème, c'est la Syrie. C'est la Syrie qui est tout ce qui a provoqué ces troupes islamistes qui descendent vers Bagdad et qui descendront peut-être vers la Mecque s'ils descendent et s'ils réussissent. Les pays islamistes comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar, le Bahreïn et l'United Arab Emirates aussi se sont joints aux Américains et ils bombardent ces gens-là. Et ces gens-là, c'est eux qui leur ont donné l'argent. C'est l'Arabie Saoudite, le Qatar qui a fourni l'argent à ces gens avec qui ils se battent, ainsi que les Américains, entre parenthèses. Parce que les Américains aussi ont fourni à l'État islamique, à ce groupe qui s'appelle État islamique, tout pour battre Assad, pour battre l'Iran. Et pour renforcer et mettre la Russie à sa place, parce qu'ils ont peur de l'influence. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Mais c'est ces trois problèmes. Si vous avez saisi ces trois problèmes, vous avez eu une façon par laquelle, j'espère, vous avoir clarifié un peu les questions du Moyen-Orient. On a pris plus de temps qu'il ne fallait, on a pris 1 heure à la place de 45 minutes.